c'est la bande originale. Soyez les bienvenus avec Agnès sur scène. Bonjour Agnès.
Bonjour Nagui.
Guillermo. C'est la dernière de l'année.
Oui, Guillermo Guillermo. Oui. Bonjour Frédéric Sigrist, Daniel Morin.
Oui.
Tanguy Pastureau et notre invité, c'est Elsa Zilberstein. C'est quoi ce cri?
Pourquoi Guillermo qui reprend?
Il est pas
non, 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 c'est Fred.
Dans l'émission.
C'est Fred qui fait Homer.
Ah, c'est
il fait Homer Simpson, j'ai pas très bien compris pourquoi. Qu'est-ce qui se passe?
Pas de pour faire Homer Simpson, tu sais.
Juste déjà savoir si tout le monde va bien. Agnès est ravissante comme tout, elle est en pleine forme.
Merci.
Je me demande.
Oh, oui.
Je me demande si Guillermo, tu es maquillé ou tu as mis la tête dans le micro-ondes. Il s'est passé un truc. Ou tu fais une allergie ou t'as mangé un piment.
Je ne suis pas chez Agnès uniquement pour profiter de son lit de princesse. C'est aussi parce qu'il y a un jardin ici. Donc voilà, il y a un petit peu de soleil, donc j'en profite.
Non, là t'as fait une réaction, je te jure, on va voir un dermato, il y a un problème, il y a un truc qui passe pas.
Il y a un truc. C'est pas le dermato qu'il faut là, c'est un prêtre là.
Mais de la crème. Bon, à propos de crème, les enfants vont bien, vos enfants vont bien, Frédéric, Agnès.
Ah, super bien.
À propos
super.
De crème, je comprends. Ah, ils sont
c'est une crème.
Bah
oui, non, ça va ou
quoi?
Agnès.
Super, ils dorment juste à côté là.
Daniel, alors toi Daniel, t'as une fille, hein, c'est ça?
Ouais, bien sûr, oui.
Et si tu avais un fils, tu l'appellerais comment?
Ah bah c'est dingue,
Guy,
ça,
non
Nagui. Non mais Nagui, je me posais la question hier en mangeant
c'est
des noix de cajou. Non mais décidément, vous avez la puissance mystique des pharaons associée à la sagesse du Fennec et à la fourberie du Moubarak. Alors pour revenir à votre petite question, dans un premier temps, je me suis fait un petit délire. Je m'imaginais appeler mon fils Daniel Morin Junior. Et puis, c'est vrai que c'est pas facile à porter. Pendant un moment, j'y avais même pensé pour ma fille. C'est peut-être encore plus difficile à porter pour une fille. Ouais, c'est vrai, la pauvre. Je l'imaginais avec ses amis. Mais pourquoi tu t'appelles Daniel Morin Junior? J'en sais rien, c'est mon père qui a choisi. Je crois qu'il m'aime pas. C'est vrai, c'est chelou quand même. Alors, dans ton entourage, forcément, une fois que t'as donné le nom de ton gamin, les gens se disent entre eux, on est d'accord. Morin, question imagination et créativité, on est au niveau de la laitue, là. Donc, du coup, je me suis dit, laisse tomber Daniel Morin Junior, prends un truc que le gosse puisse s'affirmer dans la vie un peu plus tard.
Bah oui.
Appelle-le Daniel Morin 2. En plus, ce qu'il y a de bien avec la numérotation, c'est que si t'as d'autres garçons, bah, tu sais tout de suite comment les appeler. Ça va plus vite. Bon, après, un autre problème est venu se greffer là-dessus. Ma femme a donné son avis. Alors, bien entendu, comme d'hab, elle n'était pas d'accord avec moi.
Ouais. Elle se permet tout.
C'est bah oui, alors là, je suis bien d'accord avec vous, Nagui, pour une fois. Elle aime bien Augustin. Du coup, j'ai montré une photo de Trapenard, ça l'a calmé direct. Alors, au final, je vais vous dire un truc. Je vais pas faire de garçon. Je vais sûrement prendre un chien. Oui, un chien, un bon gros chien. Je l'appellerais bien Nagui Junior.
Oui, voilà, j'étais sûr.
Mais avec un prénom comme ça, j'ai très peur qu'il passe son temps à vouloir me mordre. J'ai très, très peur.
Merci, Daniel. Ça dépend, si tu me fais des grattes-grattes sur le ventre, je serai un gentil chien.
Encore ?
Mais oui, comme d'habitude.
Ça nous prend goût, hein.
Elsa Zilberstein, tout à l'heure notre invitée, pour parler d'une comédie qui s'appelle Adorable, justement comme vos enfants. Adorable au pluriel, sauf que là c'est la crise d'ado poussée à l'extrême, un film réalisé par Solange Sicquerel, et c'est Lucien Jean-Baptiste qui fait l'ex, entre guillemets, mais également le papa. Dans ce film avec Elsa Zilberstein, on va en parler. Et comme Elsa a eu son César, c'était en 2009, je crois, pour un film qui s'appelait... Qui a soupiré comme ça?
Moi, je suis concentré, Nagui, concentré.
Mais alors, il y a un soupir énorme qui est arrivé. Donc, César 2009...
C'est un auditeur, à mon avis.
Non, salaud. C'était pour un film qui s'appelait « Il y a longtemps que je t'aime ». Vous me voyez venir pour le blind test.
Johnny Hallyday.
Je sais pas,
Amour.
Je sais pas demander. Exactement. Autour, en tout cas, des chansons avec Je t'aime. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous levez la main si
facile.
Vous voulez prendre la parole. Ça va être très, très, très facile aujourd'hui. Ça va être la guerre de tranchées parce que tout le monde va marquer des points. C'est parti. Très facile.
Daniel.
Allez.
Ouais, Daniel.
Serge Vas-y, Gainsbourg, Daniel. Je t'aime moi non plus.
Je t'aime. Oui, je t'aime.
Je demande si aujourd'hui ça serait possible un disque comme ça.
Oui, mais avec la distanciation sanitaire de Ribéry.
Je t'aime.
Distanciation physique.
Premier point pour Daniel. Attention. Ouais, Frédéric.
Lara Fabian.
Ah,
oh, joli.
Ah, ah ouais, mais... ouais, mais ouais. Et en même temps, tu sais, il y a aucune fierté. Allez, le premier à lever la main.
Assume.
Non, mais... c'est juste que j'ai souvent fait des courses avec mes grands-parents au courant et elles passaient souvent.
Elle envoie. Tu serais capable de chanter comme ça, Agnès, ou pas? Elle envoie quand même.
Je t'aime. Horrible.
Ouais, pas mal. Attention, bien, peut-être plus difficile, que sais-je. Je pense que Guillermo a toutes ses chances.
Daniel.
Agnès.
Non, c'est Agnès. Non, c'est Agnès. Oui, vas-y, Agnès.
Ça l'appelle que t'aimes.
Ah, joli.
Mais.
Alors, on a le droit d'inventer des titres de chansons, en fait.
Mais non, il y a Tiamo. Et Tiamo, c'est Je t'aime. Hein.
Non, c'était pas une phrase qu'elle a fait. Elle a dit blablabla, blablabla, blablabla. Non,
ça rappelle que Tiamo.
Richie et Poveri.
Je croyais parce que Guillermo, il avait levé la main et il a un léger retard physique.
J'adore.
Attention, pour l'instant, tout le monde a un point, sauf Guillermo.
Oui, mais Guillermo, vous le voyez pas,
sans blague.
Rien
sans
que quand il lève la main, déjà, c'est une souffrance, et il est là. Et voilà.
Mais t'es du Angèle.
Mais il nous surprend. Non, même Angèle, il trouve pas. Non, il nous surprend avec du Tanita Tikaram ou avec des
titres un peu plus pointus.
Mais oui, mais moi, je suis devant Nagui. Chaque fois que je lève la main, vous me regardez jamais.
Tu pars, mais arrête, Calimero, c'est plus Guillermo, c'est Calimero,
c'est
sans blaguer.
C'est un pas truc possible. De fou.
Tiens, vas-y, tu sais quoi, je regarde que toi. Attention. Bon, baisse ta main, là, elle sert à rien. Écoute bien. Vas-y, Guillermo.
Francis Cabrel, je t'aimerai.
Joli.
Je t'aimerai.
C'est touchant.
Mais c'est beau, hein. Je vous le dis, je suis depuis... depuis le début, je suis en train de lever la main à chaque fois. Et personne ne me regarde.
Mais quoi, que tu fais?
Non, j'ai une émotion.
J'ai pris ça pour un geste politique.
Partout tu regardes.
On est surtout avec la tête de lit derrière.
C'est
une souffrance. Le mec
est
agité.
Il est là,
il lève la main. Personne n'est.
Tout le monde a un point. Truc de dingue. Je me demande, ça n'est jamais arrivé.
Il faut qu'on
arrive à la fin de la saison pour que tout le monde ait un point. Attention, je t'aime dans le titre. C'est même carrément le titre. C'est avec Je t'aime, mais qui chante?
Oh!
Daniel?
Polnareff.
Joli!
Ah. Magnifique!
Qu'est-ce que j'en ai pris des vents là-dessus!
Ça veut quand même dire que toi, t'as pu rentrer dans la boîte.
Non, j'étais sur le parking.
Attention. Du Macumba.
Ah bah, tu y étais aussi, toi, tu mixais. Hein.
Attention. Qu'est-ce que ça veut dire là-dedans, ça?
What?
Qu'est-ce que c'est que ça?
Leïla.
C'est une déclaration pour Leïla?
Mais non. Ah merde, je l'ai perdu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, voilà.
La BO, ça.
Non, chut, écoutez. Ah. Écoutez bien. Extrêmement connu.
Regarde les étoiles.
C'est beau en tout cas. Ah, peut-être que là vous allez reconnaître. Écoutez bien.
Oh, Daniel.
Oui.
Johnny Hallyday.
Joli.
Mais c'est par qui?
Que je t'aime. Que je t'aime.
Ça c'est un truc que je trouve.
Ouais.
Oh, que je t'aime.
Ah,
Ouais, c'était que là. Je t'aime par Renaud Capuçon.
Non, c'était le London Symphonic Orchestra et il avait fait cette ouverture là au Stade de France, génial, tu vois, avec un orchestre symphonique comme ça, génial. Attention.
Dans les Bigards aussi.
Pour l'instant, Daniel a 3 points, Frédéric 1, Guillermo 1, Agnès 1. Tout se joue avec le dernier titre qui rapporte 5 points. Et là, ça va être du costaud. Je peux pas laisser plus loin parce qu'une fois que vous avez entendu la chanson.
Mais... Mort Schumann.
Alors.
Daniel ?
Non, ouais, vas-y, Daniel.
On peut avoir deux fois le même artiste ou pas ? Parce que sinon, ça ressemble à Johnny encore. Donc je fais peut-être une fixette.
Je t'aime.
Joli.
Je t'aime.
Yes.
Je t'aime. Wow.
On sent qu'il avait quand même du mal à retenir les paroles de ses chansons. Hein.
Non mais écoutez la voix. Non mais quand même, il envoyait. Incroyable.
L'enfer est le pire. Je n'ai rien à dire.
Et la chanson s'appelle quand même Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est trois fois Je t'aime. Je lis. Et alors on peut quand même commencer l'émission aujourd'hui avec
Je t'aime.
Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai.
Je t'aime.
Oh, je t'aime.
Je t'aime.
C'est un beau début d'émission, non, quand même, autant d'amour, ça fait du bien, de nos jours.
Ouais.
Mais j'ai l'impression que quand même...
Ce que les auditeurs ne voient pas, c'est que tu es nu quand tu fais ça, en fait.
Et Agnès, regarde comme elle ondule, regarde comme elle danse, elle est comme une folle. Tu mets ça en boîte, elle devient dingue. Je t'aime, tout ça pour faire un clin d'œil à Elsa Zilberstein, il y a longtemps que je t'aime. Pour ce film, elle avait reçu le César, c'était en 2009, elle sera tout à l'heure notre invitée, ça sera après que Agnès Hurstel nous ait donné son humeur, et après cette musique.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Eels dans la bande originale. Mais en tout cas, bravo Daniel, hein, t'as assuré.
Ah bah du Johnny, merci Nagui. Ça m'a envoyé en prison cet été.
22 miles of hard road, 33 years of tough luck, 44 skulls buried in the ground, crawling down through the muck. Oh yeah. Teacher, Johnny don't like the school. One day Johnny gonna do something, show him he's nobody's fool. Oh yeah. Sally don't like her friends. Sally and Johnny watching TV, waiting for it to end.
Oh yeah.
years of tough luck. 44 skulls buried in the ground, crawling down through the muck. Oh yeah.
Le bonhomme s'appelle Marc Olivier Everett, c'est pourtant un groupe, c'est-à-dire ce qui est génial, c'est que chaque fois qu'il fait un album, il demande à différentes personnes, différents musiciens de venir l'accompagner. Il présente ça comme étant un groupe, comme étant un concept, mais c'est lui qui fait tout quand même, auteur, compositeur et interprète. Ceci étant dit, c'est avec Elsa Silberstein que nous allons maintenant passer la demi-heure suivante. Bonjour Elsa, bienvenue à ce micro, tout va bien ?
Oui, merci, bonjour, très bien.
Ravi de vous accueillir avec Agnès Hurstel, Guillermo, Guise, Daniel Morin, Frédéric Sigris, toute la joyeuse bande est là.
Super, bonjour à tous.
Pour vous féliciter pour ce moment adorable. Alors c'est pas vous qui êtes adorable tout le temps dans le film. C'est évidemment nos chères têtes blondes. Ce sont les enfants qui sont qualifiés d'adorables.
Ouais.
Et c'est une comédie où vous vous lâchez. Je vous ai rarement vu aussi folle dingue. Elsa.
Le rôle était absolument génial. En fait, ce qui était original, je trouve, c'est sa fille de 13 ans qui fait une crise d'adolescence assez forte.
Ouais.
Et elle, qui est psy, qui est censée maîtriser tout, cette crise d'adolescence lui fait réaliser qu'elle a peut-être pas fait sa crise comme elle aurait dû la faire avec sa propre mère, qui est jouée par Hélène Vincent. Et en fait, c'est deux filles qui font une crise d'ado en même temps. Finalement, c'est la mère et la fille qui font une crise d'ado. Et c'est assez, ça m'a fait penser un peu à La Guerre des Roses, moi, quand j'ai lu le scénario. Entre une mère et une fille.
Parce que, oui, parce qu'il y a totalement d'accord, il y a ce côté œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, dès l'instant où l'adolescente va faire une crasse à sa mère, sa mère va lui pourrir la vie.
Voilà, pour la dompter et lui faire comprendre la vie. Et comme elle a pas réglé ses problèmes, la mère, et qu'elle part en sucette avec sa propre mère aussi, il y a des choses qu'elle a pas réglées. Du coup, ça prend des proportions, mais délirantes. Et alors, ce qui était étonnant quand j'ai commencé à travailler les rôles, c'est que la réalisatrice, elle me dit, mais Elsa, moi, j'ai vécu ça avec ma fille. Je pensais pas que ça allait si loin, et en fait les langues se sont déliées. Le nombre de femmes qui m'ont dit, mais attendez, moi avec ma fille, des fois j'ai envie de la trucider. J'ai l'impression que ça peut prendre des proportions démentes, voilà. Et c'est ce que je trouvais drôle dans l'écriture. Et elle tourne ça en dérision, mais c'est vraiment bien écrit. Et les rôles sont assez jouissifs
à jouer, en tout cas, et pour nous à voir, c'est extrêmement drôle. On va continuer d'en parler dans quelques instants, mais d'abord à propos d'humour et d'humeur, voici Agnès Hurstel. Et apparemment, je ne suis pas le seul, Agnès, mais toi aussi, tu es sans dessus dessous ce matin.
Oui, Nagui, sans dessus dessous, pas juste parce que tu as failli zapper ma drôle d'humeur, mais parce que pour la première fois de ma vie, depuis quelques semaines, j'emploie une babysitter, Nagui, et pour la première fois de ma vie, depuis que j'emploie une babysitter, on m'appelle madame. Mais Nagui, j'ai son âge dans ma tête à la babysitter. C'est-à-dire que moi aussi, je regarde des dessins animés sur Netflix en attendant que mon mec rentre et je fume des pétards en cachette. Moi aussi, je mets des strings ficelles mais je partage ma salle de bain avec mes petits frères trop relous qui mettent de la mousse partout. Moi aussi, après le babysitting, je rejoins mes amis dans l'appart d'à côté pour jouer à Je n'ai jamais avec du Malibu Coco et espérer enfin rouler des pelles à Clément. Ne me dites pas que je fais désormais partie de ce groupe de gens lugubres qui disent oui, on sera rentré vers 23h, 23h30, il y a du poulet et du gratin dans le frigo. Tu sais comment marche la télé? C'est trois télécommandes, Samsung, Orange. Ah tiens, tu lis Jane Austen? Moi aussi, je l'ai lu à ton âge. Non! Je ne suis pas madame, je suis une babysitter. Moi aussi, je suis née en 2002 et j'ai 17 ans, putain! Pff. Vous n'êtes pas hyper nostalgique de la période où on se faisait doigter?
Mais ça va pas, non? Puisqu'on en parle,
on est tous passés par là. Bah, c'est une des grandes, étapes de la vie d'une femme. Je veux dire, il y a école primaire, collège, brevet, les WAD, le bac, le permis, les enfants, le boulot et la mort. Enfin, c'est ça la vie.
Non,
tu vois. Daniel revient dans l'écran. On se faisait doigter. C'était une période courte mais intense. Tu sais, Nagui, tes enfants sont en plein dedans dans cette période. C'était une période extraordinaire.
Mais ça va pas.
Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas la Covid. Il n'y avait pas les vergetures. Il n'y avait pas le maxi cosy bébé. Il n'y avait pas d'emmerde. Il n'y avait que des hommes et des doigts. Titre. Je veux dire, on rentrait de soirée et on disait à nos copines alors,
non.
Il t'a doigté?
Non.
Quoi, un doigt? deux doigts. Oh my god, trois doigts, mais le gars te kiffe, quoi. Je veux dire, quatre doigts, il te présente à sa mère et il t'emmène à Oléron cet été, quoi. C'est fou.
Mais Agnès.
Bon, les mecs se lavaient pas trop les mains. Les mecs se lavaient pas trop les mains, c'est vrai. Mais c'était poétique, quoi, tu vois. Mais il y avait pas de gel hydroalcoolique à l'époque, donc c'est un peu. D'ailleurs, je sais pas comment font les jeunes aujourd'hui. Faudrait que je me renseigne. Faudrait que je demande à ma baby-sitter. C'est...
Non.
Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est ma dernière chronique de l'année, donc je vous dis ce que j'ai sur le cœur.
Dernière de ta vie.
Peut-être que ta fille fait du babysitting, Nagui, ça peut m'intéresser, tu vois. Moi, j'ai été babysitter de mes 15 à 22 ans.
Je la laisse pas venir chez toi.
Mais si, justement, moi, j'étais babysitter jusqu'à il y a pas si longtemps, d'accord. Après, je suis devenue serveuse parce que j'ai vu que ça rapportait plus et qu'on roulait plus de pelles. Et je vais vous l'avouer ce matin, parce que j'ai plus rien à perdre et parce que de toute façon, on m'a coupé ma chronique, etc. Voilà, il n'y a plus de respect. Et parce que je suis une vieille madame, j'ai volé à chaque babysitting où j'ai été embauchée. De 2005 à 2014, j'ai volé. Quid une barrette Hello Kitty, quid un DVD érotique du père, ça c'était une famille sur King's Road à Londres en 2007, quid un petit coquillage peint par l'enfant de la famille, ça c'était à Brompton Square à Londres en 2008, j'ai utilisé votre ligne fixe pour appeler mes copines, j'ai goûté vos vins, j'ai essayé vos crèmes de nuit, je vous ai volé, voilà, pour avoir un souvenir de vous, voilà, je sais, je suis à deux doigts de chansons douces. C'est horrible, je m'en rends bien compte, hein. Je sais pas si vous avez lu ce livre ou vu ce film.
Oui, la Simani.
Mais j'ai même fait pire. J'ai gardé mon propre petit frère un week-end entier quand j'étais au lycée parce que mes parents étaient chez Baou. Il avait 6 ans et moi 16 ou 17 et je l'ai laissé tout seul pour aller en boîte de nuit. Alors je lui ai laissé des post-it avec mon numéro écrit devant la porte de sa chambre, mais bon, il savait pas lire. Mais finalement tout s'est bien passé. Aujourd'hui il va bien, j'espère que la boîte de nuit c'était sympa, je sais même plus si c'était sympa ou pas. Voilà, c'est pour ça qu'hier soir mon petit ami m'a dit est-ce que tu la sens la nouvelle babysitter qui vient d'arriver? Est-ce que t'as un bon feeling? Je lui ai dit non, t'inquiète, elle ne peut pas être pire que moi. Voilà, bonne semaine, bon
Merci.
Été et vive les doigts.
Bravo. Donc, nous avons eu un craquage en direct à l'antenne d'Agnès Hurstel. Elsa, je suis désolé. Elsa, je suis
drôle, j'adore.
Merci,
j'adore quand ça déborde comme ça. Moi, j'adore.
La déclaration des doigts de l'homme.
Mais c'est vrai, Elsa Zieberstein, qu'il y a un lien direct entre le craquage de maman Agnès Hurstel et de et de la maman de Emma, le personnage que vous jouez dans le film, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas être justement devenir cette dame. Elle veut continuer de s'éclater en boîte de nuit. Elle veut sortir. Elle veut aller au concert d'Amir. Elle veut peut-être que les hommes fassent ce dont Agnès Hurstel a parlé. J'arrive même pas à le dire moi. C'est ça. C'est qu'il y a qu'une fille qui peut dire ça.
Je le dirai pas non plus, mais ça a été dit tout à l'heure, ça va.
Voilà. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'elle refuse, quand vous disiez qu'il y avait deux crises d'adolescence d'adolescente dans le film, c'est ça?
Ouais.
Elle refuse au
grand-dire. C'est ça que je trouvais original, en fait. D'un coup, elle veut aller au concert d'Amir. Elle croise Amir par hasard dans une boulangerie qui est pas encore partie, qui était en tournée. Elle s'en remet pas. Voilà, c'est vraiment, elle a envie de vibrer. Elle a pas envie d'être une dame. Et c'est un truc que je sens, comme vous, Agnès. Et je trouve ça génial quand tout d'un coup, on t'offre un personnage comme ça qui a envie de, je m'énerve aussi quand ma fille fait une soirée et que elle ruine mon canapé où j'ai écouté Freddie Mercury. Je deviens hystérique.
Vous appelez le canapé s'appelle Freddie Mercury.
Le canapé s'appelle Freddie Mercury. Elle devient hystérique parce que sa fille, le canapé a été taché, qu'il y a tellement de souvenirs sur ce canapé et que sa fille peut pas comprendre. Donc voilà, je trouve qu'elle fait de la boxe, mon personnage. Elle est assez rock'n'roll, quoi. Elle est assez barrée. Donc c'est vraiment génial à jouer.
C'est vraiment
ce qui est merveilleux.
C'était vraiment les indications de Solange Sicurel, où vous en avez aussi rajouté, vous êtes lâché comme une espèce d'exutoire en disant j'ai un rôle où
en
je vais
fait,
pouvoir
quand
enfin.
Quand on prépare un film, on travaille toujours avec le metteur en scène à optimiser tout, donc on se pose toutes les bonnes questions pour se dire est-ce qu'on est allé au max là. Là je lui disais là c'est peut-être ça manque et l'idée de Freddie Mercury c'est moi qui l'ai eue, mais en tout cas c'est vrai que je trouvais que ça. J'ai dit mais quand elle fait la fête, il manque un truc et donc on a eu l'idée de ce canapé et donc voilà, Solange a réécrit ça et je trouvais que c'était bien qu'il y ait des moments de pic, mais non, c'était déjà écrit assez comme ça. Aussi quand j'attends Max Boublil dont je tombe amoureuse, je suis complètement bourrée quand je le reçois à la maison, enfin j'adore quand les personnages sont excessifs, sont sur le fil, sont prêts à basculer, sont enfants, adultes, femmes, quand les personnages n'ont pas encore réglé leurs problèmes et qui sont en même temps que leur fille de 13 ans à un niveau mental. Je trouve ça très jouissif à faire en tout cas.
Non, et vous avez raison, l'œil pour œil, dent pour dent, ça fonctionne extrêmement bien. On se retrouve en effet dans l'esprit de la guerre des roses.
Je pense qu'il y a plein de mères qui vont se retrouver, plein de gens qui vont se retrouver. Et surtout après le confinement, je pense plein de familles qui ont vécu des choses difficiles avec leurs enfants, qui vont peut-être être intéressées par le sujet. En tout cas, c'est universel et le sujet parle aussi d'amour, puisque finalement, c'est que de l'amour, ils s'aiment, tous ces gens-là. Voilà.
Non, mais Elsa Zilberstein, c'est faux. Personne ne va se retrouver là-dedans. Vous n'êtes pas sur le fil. Vous êtes totalement cinglé en mère de famille.
Mais j'adore
vous
être cinglé.
Choses, vous faites des choses dont on ne parlera pas pour ne pas divulgâcher. Mais c'est pas permis de faire les choses que vous faites à votre pauvre fille. Non, mais c'est atroce. Qui est la plus tarée des deux? Moi, je sais. Je ne le dirai pas pour ne rien gâcher, mais vous êtes folle dans le film.
Non, et puis, surtout, ce qui est drôle, c'est qu'elle est folle et psy. C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que vous essayez, vous donnez des conseils aux autres en étant totalement à côté de la plaque.
Bah, comme souvent, les cornonniers sont les plus mal chaussés, comme on dit. Elle a fait ses études de psy. Elle est bon. On est toujours meilleur conseiller pour les autres. Quand on est dans sa propre vie, on a toujours du mal. Vous remarquerez. C'est toujours plus facile pour les copines de donner des conseils que pour soi-même. Donc, il y a plein de choses qu'elle a pas réglées. Finalement, elle a pas avalé de se séparer du père de sa fille. Elle rencontre un autre homme. Elle est tout émoustillée. Voilà. Il y a plein de choses qu'elle avait pas réglées. C'est ça qui est joli dans le film. Sinon, si le personnage a tout réglé, c'est pas intéressant.
Est-ce que vous avez réglé votre amour pour Max Boublil quand même, parce que ce soit dans le film à sketch, dans Selfie, vous étiez déjà amoureuse de Max Boublil. Là encore, il y a un moment, il va falloir conclure, Elsa. Vous pouvez pas rester, vous pouvez pas tourner autour de lui.
On va peut-être faire un troisième film ensemble. On va peut-être conclure.
Et puis il y a un guest.
On dirait qu'on a tous un ange. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde.
Il est charmant quand même, il est séduisant.
Non, il est charmant, Amir, trop mignon. C'était pas très difficile
en sourire.
Je suis dans la boulangerie que je le croise, dans tous mes états. Elle est complètement comme décrivait Agnès.
Sous le charme. Ouais.
Totalement.
Allez, j'aime bien maintenant, on n'ose plus rien dire, elle est complètement comme dit Agnès. Frédéric, c'est une question pour Elsa Zilberstein.
Oui, c'est moins une question qu'une remarque par rapport au film. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que c'est un couple mixte, c'est-à-dire blanc,
absolument,
noir, et qui ont un enfant ensemble. Et c'est un détail, mais qu'on voit très rarement dans le cinéma français. Et
tout
à aucun moment, c'est appuyé, surligné ou tout ça. Mais je voulais dire bravo à toute l'équipe pour ça, parce que les métis, on existe, c'est bien.
Non, mais alors là, je suis absolument d'accord avec vous. Surtout que c'était pas du tout écrit, il n'y avait pas marqué dans le scénario, c'est un couple mixte et tout. C'est pas du tout ça. Il y avait un rôle d'homme de 45 ans, et elle m'a dit, je pense à Lucien. J'ai dit, génial. Donc, fallait trouver une jeune fille métisse, c'est tout. Mais c'est absolument juste. Oui, c'était une bonne remarque.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas dans le film d'allusion particulière. Si, Fred, j'ai pas remarqué. Il y a une allusion particulière.
Non, c'était pas écrit. Il y avait pas de lien à ça dans le scénario.
Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est vécu entre guillemets naturellement, et il n'y a pas de situation où on met Lucien Jean-Baptiste dans la situation d'être entre guillemets le noir de service qui doit faire la scène du noir machin. Non, c'est juste un papa qui est désemparé, qui est beaucoup plus permissif que la maman par moment, et qui sans aller jusqu'à une liaison oedipienne avec sa fille. En tout cas, il y a à la fois toujours la compète entre divorcés, et puis le côté je t'aime plus mais je t'aime encore, mais on a quand même un enfant en commun, trouvons un compromis. Et surtout, le problème dans beaucoup de couples, c'est est-ce que l'on décide ensemble pour l'enfant, ou est-ce que dès l'instant où l'un des deux parents refuse quelque chose, l'autre va finir par l'accepter, ce qui est un combat permanent, encore plus, je pense, dans les couples séparés. Une comédie extrêmement jouissive, vous allez vous reconnaître de toute façon, que ce soit en tant qu'ado, toujours ado, pour Agnès Hurstel, ou que ce soit en tant que parent ou père pour Frédéric Sigrist. Ça s'appelle Adorable, et ça sortira le 29 juillet avec Hélène Vincent. On n'a pas suffisamment insisté aussi sur Hélène Vincent, qui est une comédienne formidable.
Ouais.
Formidable. Déjà dans Hors Normes, elle nous avait bouleversés. Là, elle est totalement en vrille aussi et en panique. Elle joue votre maman, et là aussi...
Ouais.
Question que beaucoup d'enfants devenus adultes se posent. Est-ce qu'on reproduit les schémas de l'éducation que nos parents nous ont transmise ou pas? C'est ce qu'on sent également en filigrane dans le film.
Bah oui, ou bien on fait totalement le contraire, ce qui veut dire qu'on n'est pas encore détaché et qu'on est encore en dépendance avec ça, ou bien on reproduit complètement, sans penser qu'on reproduit parfois en plus. Mais le pattern, comme on dit, c'est compliqué des fois de se défaire de ce qu'on a reçu comme héritage. Bien sûr, c'est compliqué.
Extrêmement drôle ce film. Question que nous posons tous les matins à nos invités, Elsa Zilberstein, qu'avez-vous retenu personnellement des 55 jours de confinement, des 2 mois?
Ben moi, j'ai fait un truc, j'ai créé mon petit personnage de fille mytho, donc moi, j'ai pas arrêté, en fait. Pendant 2 mois, j'étais à la plage, je suis allée sur la lune, j'ai tourné avec Woody Allen, j'ai dormi avec Brad Pitt, fait plein de trucs.
Voilà. Ah, c'est vrai que c'est parti d'un délire avec les comédiennes confinées ne pourront plus être mytho et faire croire qu'elles étaient à des soirées dingues la veille, c'est ça?
Oui, c'est, je me suis dit un jour, en raccrochant avec un copain, j'ai dit, tiens, c'est drôle, on peut plus faire de mytho, quoi, partir en soirée comme ça. Et puis je me suis habillée, j'ai mis des talons. Et mon ami m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, bah, je pars à une soirée, pourquoi? Et j'ai fait ça une première fois. Et puis j'ai continué tous les jours. Un coup, je partais tourner. Un coup, je partais en tournage à New York. Et en fait, il y a de plus en plus de monde et les réactions. C'est surtout les gens, le lien que j'ai créé avec les gens, qui ont été absolument merveilleux. Je tiens à le dire parce que c'est avec le public j'ai eu un échange fabuleux et j'ai l'impression que ça leur a donné de créer ce personnage qui était libre, ce petit personnage qui faisait ce qu'elle voulait, qui était pas en confinement. Et ben les gens ils m'ont suivi et c'était joli quoi. Voilà, tous les soirs je faisais ça.
Est-ce que quelque chose a changé justement chez vous, peut-être dans ce rapport avec le public, peut-être dans cette manière de vous laisser aller à de la pure déconne pour le plaisir de vous amuser, pour le plaisir de jouer? Est-ce que, bref, avez-vous une révélation particulière?
Non, c'est pas faux. Je pense que voilà, quand on fait des films, c'est jamais soi-même. Donc moi, je suis au fil des films. Il y a ma personnalité qui est là dans les choix de films que je fais, forcément. C'est pas un hasard si on choisit un film. On pourrait faire un portrait de soi-même au travers des choix de rôle. Mais là, c'était très différent. Là, c'était vraiment mon délire, ma fantaisie à moi, Elsa, et que les gens ne connaissaient peut-être pas. Et j'étais heureuse que ça fonctionne comme ça avec eux.
Est-ce que du plaisir de jouer. Voilà, mais est-ce que Mytho va devenir un film? Est-ce que ça vous a donné l'idée d'un
peut-être,
scénar?
Peut-être. Ouais, ça m'a donné l'idée. Ouais, on va voir.
Bah, dites-le. Pourquoi? Bah,
non, allez. Peut-être. Parce que rien n'est encore fixe, mais on a. Oui, on a envie. Voilà, on va voir.
D'accord, très bien. en tout cas, il y a une bonne base. C'était avec Gad Elmaleh, c'est ça que vous aviez discuté avec lui sur le mytho ou
oui, mais ça c'est pas lui qui m'a dit vas-y fais-le. C'est juste d'accord. Une discussion en raccrochant. Il me dit putain les nanas en soirée. Non, c'est pas du tout même pas les actrices. Il m'a dit on déconnant, on se disait putain les filles elles peuvent plus partir en mytho. Je vais à une soirée, je me maquille mon cœur pour aller à une soirée. Et en raccrochant, je me dis j'ai dit à mon ami viens on le fait. Je me suis habillée et j'ai dit ben viens je vais partir à une soirée tiens moi aussi. Voilà. Très donc bien. C'est parti d'une discussion avec Gad en effet. Et après toutes les déclinaisons possibles de je me suis dit qu'est-ce que tout le monde rêverait de faire, aller à l'aéroport, s'envoler pour New York, prendre un café, aller à la plage. Donc j'ai essayé de décliner tout ce que moi je rêverais de faire aussi.
Et tout et ça avec votre ami qui est réalisateur, c'est-à-dire que vous avez été complémentaire dans le couple dans le délire mytho sur Insta. Voilà, sur les réseaux sociaux.
Exactement.
Très bien. Évoquons l'année 1990.
Ouais. Oh, j'adore John Lennon, Plastic Ono Band.
Ouais.
Sublime album. Premier album qui fait pour les Beatles. Hein.
Exactement. Ouais, non, mais vous êtes pointu en musique. Est-ce que c'est la période où vous êtes inscrite au cours Florent? Vous avez 16 ans, c'est ça quand vous
16 ans, je m'inscris au cours Florent Et puis je découvre plus tard un peu John Lennon, mais là j'étais plutôt moi très très petite fille Agnès, pas du tout très très petite fille. Donc à 16 ans, j'écoutais, je sais même pas quoi vous dire à mon avis.
Non mais
après très vite à 17-18, c'était Étienne Dao ma passion.
Ah très bien, mais là vous étiez amoureuse d'Étienne Dao, c'est pas pareil.
Ah ouais, totalement.
Bah évidemment, on peut être que amoureuse d'Étienne Dao ou amoureux d'Étienne Dao.
Et de Patrick Bruel à 16 ans aussi. Hein.
D'accord. Est-ce que immédiatement la comédie a été une évidence, une révélation pour vous ou c'est le travail et peut-être une prof qui vous a donné confiance?
Bah, en fait, moi, j'étais très, très timide. Donc, je pouvais pas dire que j'allais être actrice et c'était pas encore là en moi. Et j'ai fait beaucoup de danse classique. Et comme j'ai fait de la danse classique, ma prof voulait que j'aille à l'opéra. J'ai finalement pas voulu aller à l'opéra. Et puis, quand j'avais 16 ans, je me suis dit, mince, c'est trop tard pour faire de la danse. Tout d'un coup, tout me paraissait sombre. Je me dis, mon Dieu, jamais être sur scène, finalement. Et mon père m'a dit, mais si tout était possible, parce que je pensais faire du dessin, j'étais bonne en dessin, j'aimais l'histoire de l'art. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu voudrais faire si tout était possible? Et j'ai dit, actrice. C'est sorti comme ça de ma bouche, je sais même pas pourquoi.
Mais ce qui est fou, c'est que la danse et le dessin sont deux arts dans lesquels on ne parle pas, on joue, absolument, on s'exprime, on communique pas avec la voix. Oui. Et là, vous passez à l'autre extrême.
Exactement, j'étais pas encore prête pour parler. Et quand je suis arrivée au cours Florent, on a fait des respirations, des trucs, on a fait une 4 heures de cours, et je suis rentrée chez moi, j'ai dit c'est ma vie.
Tout à l'heure, c'était en début de semaine, Emmanuel De Vos nous avait dit l'importance et ce que Francis Huster lui avait apporté en tant que professeur au cours Florent. Ouais. Vous avez eu aussi Francis. Alors je sais pas si vous étiez dans la même classe avec Emmanuel De Vos.
Non, on n'était pas dans la même classe. Non.
Mais vous avez eu Francis Huster en classe libre. Qu'est-ce qui vous a transmis, qu'est-ce qui vous a apporté de particulier dans votre travail qui paye encore aujourd'hui?
Les cours de Francis, ils étaient un peu particuliers parce qu'ils faisaient des groupes de gens avec des visages. Toi, t'es de la famille plutôt Adjani Bai. Toi, t'es de la famille. Donc, ils faisaient des groupes comme ça. Et puis, ils nous disaient, c'était curieux, les cours de Francis. On l'adorait. On était toutes amoureuses de lui. Moi, j'étais très timide. Donc, il nous faisait genre, vous recevez un César, montez sur scène, recevez votre César. Bon, voilà. Des cours comme ça, un peu bizarres. Il nous faisait des cours il nous filmait, il nous regardait nos visages. C'était assez génial. Tu passais 3 heures avec lui et tu le suivais du regard avec son gros pull, ses petites lunettes. On était toutes captivées. Mais en fait, je peux pas vous dire un souvenir de scène. On n'a pas travaillé de scène.
En 2020, je crois que c'est plus légal, ça.
Mais il était absolument merveilleux et j'adore Francis et je garde un souvenir magique, quoi, quand même.
En 1991, Nina Simone faisait partie de votre
spectacle aussi. J'adore cette chanson.
La voix de Nina Simone, incroyable.
Ouais, you know how I feel. River running free, you know how I feel.
91, c'est l'année Van Gogh avec Piala à la direction. Ouais. Et là, j'ai retrouvé une interview que vous avez donnée qui est juste dingue.
Ouais.
Vous dites, je sais pas si c'est un bon ou un mauvais souvenir, mais enfin, j'imagine qu'à la base, c'est pas très bon comme souvenir. On m'a poussé devant la caméra, j'ai embrassé Dutronc qui sentait le cigare alors que je n'avais jamais connu un garçon.
Non, c'était merveilleux comme souvenir. Donc c'est vrai que c'était bizarre. J'ai embrassé Jacques que je connaissais pas. J'étais hyper impressionnée. J'étais quand même toute petite. Et Piala m'a poussée en me disant va l'embrasser. Et voilà, je l'ai embrassé. Effectivement, il sentait le cigare. C'est pas bien grave. Mais je suis repartie. Il m'a dit mais pas comme ça. On dirait une écolière. Bah oui, force des choses. Et je jouais une prostituée. Donc c'était.
Attendez, vraiment Elsa, vous n'aviez jamais embrassé un garçon?
Oh si, j'avais déjà embrassé un garçon, mais genre peut-être un ou deux, quoi. Ouais.
D'accord, ok.
Ah, quand je vous ai dit que j'étais très en retard, oui.
Oui, non, mais là, à ce point-là, ça, c'est. Enfin bon, bref, enfin bon, c'est 18 ans, ne pas avoir embrassé de garçon, on se dit.
Si, j'avais déjà embrassé un garçon. Mais je connaissais pas grand-chose à la vie, on va dire. Mais c'est vrai Mais c'était extraordinaire, mais c'était. Oui, j'étais quand même assez terrifiée. Mais.
Et là, est-ce qu'avec Piala, votre existence a connu un virage aussi particulier?
Bah, tout a changé dans ma vie. Hein. C'était mon. Ça a été une énorme rencontre dans ma vie. C'était un génie absolu de metteur en scène. Ça a été une grande, grande rencontre. Ouais, absolument. Il m'a transformé ma vie. Et
il était autoritaire.
J'ai tourné pendant 3 semaines, 1 mois, et le film a été à Cannes. J'ai été nominé au César, et c'était parti, quoi. Voilà.
Mais il était comment avec ses actrices autoritaires ou au contraire protecteurs?
Un peu les deux. Un peu les deux. Il y avait un côté Pygmalion. Ouais. Je me souviens, il m'avait dit, tu vas le dire à qui alors que t'as ce rôle? Un petit, je sais pas, à mes parents. Tu sais que tu vas être en photo dans Première et dans Studio maintenant. J'avais dit, ah bon, il m'avait dit, tu me trahiras pas, hein.
Je dis, ben non, je vous trahirai pas. Pourquoi je vous trahirai? Mais non, non, c'était un mec hallucinant. Donc, à côté de ça, il pouvait être autoritaire. Le lendemain, je me rappelle, j'étais assis dans l'herbe. Il me dit, ah ben ça y est, tu prends tes aises. Ça veut dire, bah, tu crois que t'es bien, bah t'es même pas bien. Enfin, ça, c'était déjà, tu te faisais casser le lendemain, quoi. Mais j'ai appris comment jamais. J'ai appris,
c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'était une manière d'obtenir plus de vous en vous traitant, en vous bousculant un tout petit peu comme ça?
Ouais, c'est clair. Mais moi, j'avais jamais fait de cinéma, hein. Je savais rien faire. Donc, je pense qu'il était, Maurice adorait prendre des gens qui ne savaient pas encore faire du cinéma et leur apprendre. Je savais rien. Je n'avais pas marché en parlant. Je savais, sincèrement, c'était, et pour moi, ça a été une école extraordinaire parce que c'était un génie absolu de comment une scène doit se passer, comment une table doit être mise quand tu déjeunes ou dînes. Comment il plaçait les figurants. J'ai énormément appris. Et Dutronc a été adorable et, c'était absolument un souvenir fou et magique de tourner avec lui.
C'est marrant, dans tout ce que vous dites et dans tout ce que vous racontez, on sent que vous avez envie de diriger aussi. Vous avez aussi envie de transmettre et d'avoir une équipe autour de vous.
Peut-être un jour. Moi, j'adore être actrice. J'adore ça. Je suis un instrument et je suis vraiment une actrice à 1000%. Donc après, c'est vrai que. Vous savez, comme je suis proche de Claude Lelouch aussi. J'ai retrouvé des choses chez Claude Lelouch. D'ailleurs, on en a parlé avec Sandrine Bonner. On avait le même sentiment. Chez Claude Lelouch, je retrouve des choses de chez Piala. Ça paraît fou, mais non. Il y a des choses. Voyant ces mecs-là travailler, t'as envie de le transmettre à un moment, de dire c'est pas possible. Ils ont tout compris. C'est absolument génial de bosser avec ces gens-là. Donc peut-être que je le ferai. Oui, peut-être que je le ferai un jour. Oui, peut-être que je le ferai, mais on va voir.
Tu voulais dire quelque chose, Frédéric Segris, pardon.
Alors, ça valait pas le coup de me redonner la parole pour une bêtise comme celle que j'ai sortie. Hein.
Ah, c'était une vague.
Comme elle a dit, j'ai retrouvé des choses chez Claude Lelouch de chez Maurice Piala. J'ai dit, oh bah ils ont dû vivre en coloc. Et
d'accord. Voilà. Ok, t'as raison. Ça valait. Voilà. Non mais t'as raison.
Bah tu vois,
c'est fait. Oui, on est d'accord. On va couper.
Non mais sur le moment, ça me semblait opportun. Et puis après, mais la seconde d'après, j'étais dans le déni. Non, j'ai pas dit ça.
C'est fou comme ça tient à pas grand chose une vanne finalement. On est en 2015 justement. Là aussi, ça fait partie des titres que vous écoutiez.
C'est bien, vous aimez bien ça, Victor Solf?
Oui, et vous?
J'adore, moi.
Et parlons de Lelouch, donc, parce que 2015, c'est 1 plus 1, ouais. Vous jouez avec Jean Dujardin.
Oui.
Le film qui s'est passé en Inde et dont on a parlé, dont on avait parlé dans cette émission. Claude Lelouch, en fait, vous l'aviez déjà rencontré au cours Florent.
En fait, il était venu faire une masterclass au cours Florent quand j'avais 18 ans et je m'étais dit, mais je suis tellement une actrice pour lui.
Évidemment.
Bah ouais, tu t'as 18 ans, il vient faire une masterclass, il est tellement brillant, comment il parle de son métier, tu te dis, il faut que je tourne avec Claude Lelouch, je sais que je suis pour lui. Et alors, la petite anecdote est drôle, c'est que moi, je connaissais personne en commençant mon métier et mon père me dit, écoute Elsa, je crois qu'au lycée, j'étais avec lui au lycée. Ah bon? Alors nous voilà en train de faire une lettre pour Claude Lelouch avec mon père. Et j'ai rendez-vous. Et il se trouve, la veille du rendez-vous, je vais à la montagne avec ma meilleure amie. Et quand on va à la montagne, t'as 17 ans, forcément, tu mets de la neige sur ton visage pour être bronzée le lundi. Et ben, j'étais pas bronzée, j'étais rouge comme une crevette.
Non, comme Guillermo aujourd'hui. C'est ça, je vois une réaction du derme.
Je suis arrivée au rendez-vous rouge comme une pivoine et... Donc le rendez-vous s'est bien passé, mais comme ça, il m'a dit, bon, bah, mademoiselle, au revoir, il faut 10 ans pour faire une actrice. Très bien.
Ouch.
Et puis finalement, bah, je commence avec Piala, je commence ma route, et on s'est recroisés plusieurs années après. Et puis, on s'est vus souvent, on a essayé de trouver des projets, ça s'est jamais fait. Et il se trouve que le hasard fait que je prenais un avion Paris-Los Angeles, hasard encore, mais comme je ne crois pas au hasard, avec Jean Dujardin. Jean venait d'avoir son Oscar, on était dans l'avion, assis 10 rangs l'un derrière l'autre. Jean me dit, bah viens t'asseoir, moi il y a personne à côté de moi. On déjeune ensemble, on rigole, on rêve de cinéma et on se dit, oh là là, faudrait qu'on fasse un film ensemble. Très vite, on parle de Claude Lelouch, on met la musique de Francis Lai entre nous deux, de Un homme qui me plaît, qui est une musique qu'on adore. Et on se dit, il faut faire un film d'amour, comme il a fait avec Belmondo, Girardeau. Et je dis à Jean Chiche, on appelle Claude en atterrissant. Il me dit, ok. J'appelle Claude Lelouch quand on est à Los Angeles et je dis, voilà Claude, je suis avec Jean Dujardin, on est à LA. On voudrait tourner un film avec vous, c'est où vous voulez, quand vous voulez, un film d'amour loin. Voilà.
Et
trois semaines après, on était dans son bureau et il avait commencé à écrire le film. Voilà.
Génial, génial. Et là, vous êtes dans le dernier, enfin le dernier fabriqué. C'est pas le dernier Lelouch, puisqu'il nous a déjà parlé de son futur projet, oui. Film qui est passé sur sur Canal, c'est le qui a été diffusé le samedi 13 et qui continue à diffuser sur Canal. Film qui a été tourné uniquement à l'iPhone. Ouais. Alors, on lui a beaucoup demandé pendant l'émission la semaine dernière comment c'était de travailler avec cette technologie. Moi, j'aimerais savoir comment c'est de jouer devant un téléphone portable. Est-ce que on joue parce qu'on est actrice et que quel que soit le matériel qui est filmé, ou quand même on se dit qu'on est dans une autre dimension et peut-être que les mouvements, les places lumière sont différentes, le jeu est-il différent finalement avec ce genre de technologie?
Je dirais que un peu ce que vous avez dit, Nagui, c'est-à-dire que quand on est actrice, on peut nous filmer avec n'importe quoi, on joue.
On joue.
Ouais. Après, il y a un truc, c'est que avec Claude en tout cas, t'es pas du genre à te soucier de la lumière, de ci, de ça. Donc là, encore moins, j'ai envie de te dire, un peu revenir à ce que disait Piala, quand il y a la caméra, finalement, tu l'oublies totalement. Avec Piala, je savais même pas où elle était, la caméra. Et avec Claude non plus. C'est-à-dire que là, quand il te filme dans La Vertu des Impondérables, je sais même pas où elle est, la caméra. En fait, à des moments, il dit action, je sais même pas où il est. Il y a deux téléphones. Et je sais même pas où il est. Et tu vis l'instant pendant un quart d'heure quand il y a l'explosion, par exemple, de la voiture. Et tu vis l'instant, mais totalement, véritablement. Il y a une vraie explosion. Et il te filme et je sais pas où il est. Je sais même pas si je suis filmée. Et on vit tous l'instant follement, vraiment, avec force. Et on, et voilà. Et je sais pas si ce bout-là, je suis filmée ou pas filmée. Donc, ça libère quelque chose.
On joue tout simplement.
En effet.
Ouais. Voilà.
Ouais. Je le rappelle, donc, fondamentaux, quoi. Voilà.
Ouais, bien sûr. Je rappelle donc la sortie le 29 juillet prochain, Adorable, une comédie totalement déjantée, portée par une femme, Solange Sicquerel. On va quand même la féliciter parce qu'elle a écrit, réalisé, ce film et elle a fait un travail formidable. Mais vous aussi, Elsa, aux côtés de Lucien Jean-Baptiste, Hélène Vincent, Yoni Matos. Enfin, il y a beaucoup de personnages dans ce film. Max Boublil, dont on parlait, Amir pour son guest aussi, c'est extrêmement drôle, c'est vivant et puis ça fait du bien.
Ça
fait du bien aussi de voir évidemment tous les défauts chez les autres, puisque évidemment nous dans nos familles on n'en a aucun et on n'a aucun problème avec nos adolescents. Ce ne sont que des défauts dont on se moque à l'image et à l'écran. Merci mille fois Elsa Zieberstein, merci, c'est toujours un bonheur d'être avec vous.
C'est super.
Passez une bonne journée. Bisous, au revoir.
Bravo. Au revoir.
Since our voyage of love began, your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me.
Our love is like a ship on the ocean, storm. And I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through.
Our love is like a ship on the ocean.
So I'd like to know where you got the-
The Hughes Corporation, ça s'appelle Rock the Boat, et voici Monsieur Tanguy Pastio. Justement, comme on vient de le faire à l'instant, on a envie de danser et les gens dansent, Tanguy, en ce début d'été.
Oui, dimanche soir à Paris, hein, lors de la fête de la musique autorisée et interdite en même temps, hein, Franck Riester a encore bien bossé. Dimanche, on a dansé dans les rues, enfin on, des jeunes. Et vous savez à quel point, Nagui, je déteste les jeunes. Hein, ces créatures hybrides, mi-enfants, mi-adultes, ça donne des visages de poupons sur des corps poilus. Ils sont affreux. Hein. En plus, c'est à eux que l'on doit le succès de la chanson « La Moulaga ». Mais là, je vais vous surprendre, je les comprends, nous piou-piou. Attendez, on les a confinés au premier jour du printemps, le moment de l'année où tout s'éveille en eux. Un courant d'air leur frôle la cuisse, ils sont excités. Et maintenant, on leur dit que le futur s'est foutu à cause de la crise. Le seul gosse à s'en sortir, ça va être Gérald Darmanin. Forcément, le 28 juin, ils sortent et ils dansent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont désespérés. C'est le titre de Stromae. Alors on danse, oui, on danse, mais on est triste. Tout ça sent la mort, la fin de l'espèce. Et bonne journée à tous. Les gens heureux ne dansent pas. Regardez le Dalai Lama, il est zen, joyeux, dans sa tête il vit une sorte de fête béarnaise permanente avec Jean Lassalle en slip. Eh ben danse-t-il ? Non ! Par contre Patrick Balkany, brisé par les geôles macroniennes, il a perdu 20 kilos, Marie-Claire a failli le mettre en couve du numéro de juillet intitulé « Je maîtrise mon poids pour un été mince et un petit cul ». Il doit 1 million d'euros à l'État français. Résultat, on l'a vu en train de danser pour évacuer son mal-être. Personne ne danse par plaisir. Vous croyez que si Daniel Evenoux fait danse avec les stars, ce sera pour l'amour du groove ? Non. Non, ce sera par désespoir, afin de choper le chèque de la prod et pouvoir s'acheter du taboulé ou du collagène. Regardez les cours de danse africaine. Là-dedans, il n'y a que des célibataires désespérés. À chaque cours, on doit changer de prof parce que celui de la semaine d'avant s'est suicidé. Moi, j'y suis allé une seule fois. Une demi-heure plus tard, j'étais raciste. Voilà, je serais le seul à pouvoir déboulonner une statue d'Aimé Césaire, si jamais il y en avait une quelque part. Moi, quand j'étais jeune, hein, il y a longtemps, à l'époque, à la télé, il y avait Alain Duhamel et Arlette Chabot. Hein. Il n'y avait pas de Covid, pas Énergie 12. Le monde était rayonnant. On a voté pour Maastricht en pensant qu'on allait faire l'Europe des peuples. On avait des rêves dingues. Moi, vous m'auriez dit, tu vas faire carrière en Hongrie. J'aurais répondu à yes, à moi, les superbes opportunités. Mais j'hésite un peu avec la Pologne. C'est la nouvelle Californie. Enfin, on était plein d'espoir. Mais pour un jeune de 2020, il est où la perspective? Ils ont chacun la charge mentale de 40 mamans de triplés. Ils doivent être beaux H24 sur Instagram. Nous, on était grunge, donc moche, hein, et on s'en foutait. Ils doivent envisager un avenir alors qu'on est au cœur de la 6e extinction de masse. Montebourg, il lui reste 3 abeilles pour faire son miel. Si à la fin de la saison, il en a une cuillère, il va payer sa tournée. Alors forcément, on danse. On danse pour oublier. Moi, en 95, quand je dansais, c'est parce que sur Fun, Arnold avait joué la voix du mélo, de Méloman. Tout était plus léger. Et je parle même pas des baby-boomers qui ont passé leur jeunesse à fumer de la weed en écoutant Magma. Même dans leur chambre, s'ils regardaient vers le haut, ils voyaient la grande ours. Hier, je lisais en Sibérie qu'il a fait 38 degrés, 18 de plus que la normale. Hier, je lisais que le conseil scientifique estimait qu'une deuxième vague de Covid à l'automne était, je cite, « extrêmement probable ». Alors non, ce n'est pas bien que des jeunes dansent sans masque, en groupe, un soir de juin. Mais c'est tout ce qu'il leur reste. Génération Balkany, je veux dire.
Yeah. Alors on danse. Merci Tanguy Pastio.
Adieu.
Ouais, c'est vrai que Balkany se balade dans les rues en train de danser pendant la fête de la musique. Ouais. Ça a choqué suffisamment d'internautes, mais pas de juges, visiblement.
Des
excuses à présenter, Daniel Morin.
Alors déjà, bien sûr, désolé pour tous nos auditeurs manchots qui ont pleuré à chaudes larmes ce matin en écoutant avec nostalgie la chronique d'Agnès sur Stelkan. Avec émotion, elle se souvenait de l'époque où elle se prenait pour une moufle. Désolé pour Guillermo, notre petit lépreux tout rougeau qui dort dans des lits d'enfants depuis qu'il a perdu son sexe, hashtag gangrène. Guillermo qui, ce matin, a une nouvelle fois été laminé, bousillé au blind test. Ah, j'ai hâte d'être à vendredi quand, pour notre dernière de la saison, on doit proposer chacun un jeu. Je pense que Guillermo est capable de perdre à son propre jeu.
Génial, merci. Merci tout le monde. Merci Agnès Surcelle pour ce moment de sincérité mais de gêne pour nous les garçons. Merci Guillermo, Guise. Ouais, c'est ça. Merci Tanguy Pastiro. Merci Agnès Morin. Merci Frédéric Sigris. Demain, Michael Youn sera notre invité. Comme tu l'as déjà annoncé, Daniel Morin, en effet, pour vendredi, on vous réserve une émission où toute la bande, tous ceux qui font partie de cette bande que j'aime et j'espère que vous l'aimez autant que moi, va proposer. On va jouer, mais comme pour les fêtes de fin d'année à l'école. Tout le monde va jouer, tout le monde va proposer des jeux aux autres. Ça va être particulier, je sens que je vais m'en prendre plein les dents.
Mais
ça sera vendredi.